Du domicile à l'EHPAD, comment est-ce qu'on va aborder cette difficile décision? C'est à vous.
Merci beaucoup, merci pour votre invitation, merci à la Fondation Recherche Alzheimer de me donner l'occasion de traiter ce sujet, qui est un sujet qui est plus du domaine social, bien entendu, avec des enjeux qui sont importants aussi, et là encore, des progrès importants qui ont été réalisés au cours des 20 dernières années. Ce départ en institution, il est appréhendé, mais pris en charge en amont grâce à toute la filière Alzheimer qui existe, tous les conseils qui peuvent être donnés, adoucis, on va dire. C'est un moment difficile pour les patients eux-mêmes, bien entendu, mais c'est un moment difficile également pour les familles. Vous allez le voir, qui sont souvent en première ligne dans ces décisions. Ce n'est pas simple non plus pour les soignants, qui sont souvent sollicités pour donner leur avis et participer à cette prise de décision. Alors j'aimerais, en introduction, reprendre quelques données d'enquête qui ont été réalisées et qui donnent un petit peu l'ensemble du décor. Donc, vous le savez, il y a en France notamment beaucoup de personnes âgées qui vivent en institution. On a maintenant tous en tête à la suite du Covid. Nous avons 10 000 établissements, 700 000 personnes âgées qui vivent en institution. Une grande majorité de ces personnes qui vivent en institution souffrent de maladies d'Alzheimer ou de maladies apparentées. Nous avons réalisé une étude il y a quelques années qui montrait qu'environ 75% des sujets qui vivent en institution souffrent d'une maladie d'Alzheimer ou d'une maladie apparentée. Ces EHPAD, elles portent une image négative dans la population générale. Et rentrer en institution est souvent vécu comme un échec. C'est un choix par défaut, souvent lorsque le maintien à domicile n'est plus possible. Et c'est souvent à reculons, il faut bien le dire, que les personnes âgées ou que les familles orientent leurs proches vers des institutions. Donc elles portent cette image avec une décision qui est très souvent prise par les proches eux-mêmes, plus que par les personnes, ce qui est tout de même assez étonnant puisque c'est un lieu de vie. Et en l'occurrence, c'est souvent une tierce personne, souvent l'aidant principal, la fille, quand il y a plusieurs filles, souvent la plus jeune, qui va prendre la main et qui va orienter son papa ou sa maman vers une maison de retraite. La personne elle-même a pris cette décision que d'environ un cas sur quatre. Donc, dans la grande majorité des cas, cette décision d'entrer en institution, c'est la famille qui emporte d'une certaine façon le fardeau. C'est une prise de décision qui est prise par des proches qui sont souvent inquiets de cette entrée dans un monde qu'ils redoutent, avec une image, comme je vous le disais, qui est souvent négative, hein, et le Covid n'a pas amélioré les choses. Ce sont des aidants qui sont également épuisés, donc c'est une décision qui est prise dans un contexte de fatigue, et souvent de façon assez tardive. C'est quelque chose que rapportent un peu toutes les études, on y reviendra un petit peu par la suite. Mais le fait que cette décision soit tardive est sans doute préjudiciable non seulement à l'aidant qui est épuisé, et ces patients ont besoin d'aidants qui soient en forme aussi, et puis souvent préjudiciable sans doute aussi pour les patients eux-mêmes qui rentrent tardivement dans les institutions et qui n'ont pas toujours la réserve pour s'adapter à un nouveau lieu de vie. Donc cette décision, elle est souvent repoussée, avec souvent une prise de décision qui est faite dans la précipitation à l'occasion d'un épisode aigu. C'est ce que l'on vit très régulièrement dans nos services hospitaliers, où le retour à la maison n'est plus possible. Et c'est de façon un peu précipitée que l'orientation se fait dans des conditions qui sont souvent traumatisantes pour tout le monde. D'un point de vue des patients, c'est souvent vécu avec un certain fatalisme. C'est ce que donnent les enquêtes sociologiques, c'est également ce que l'on voit. On est parfois surpris par une espèce d'acceptation qu'il y a de la part des personnes âgées, une certaine résignation. Et puis pour les proches, c'est un sentiment très partagé qui se situe entre le soulagement, parce qu'ils sont épuisés et qu'ils y voient enfin un lieu où la sérénité va revenir dans leur vie, mais également un sentiment fort de culpabilité, où ils ont le sentiment qu'ils auraient pu faire plus, faire mieux, et qu'eux seuls peuvent faire au mieux pour leurs proches. Donc cette culpabilité pèse fortement dans cette prise de décision, bien entendu. Dans des enquêtes, très souvent, l'orientation vers un EHPAD n'a pas été abordée dans les mois qui précèdent. C'est très tardivement abordé. C'est quelque chose qui, je pense, est en tête des patients eux-mêmes, lorsqu'un diagnostic est posé, dans l'esprit également des familles. Très rapidement, on envisage l'entrée en institution. C'est discuté très tardivement. Et c'est sans doute dommage. J'y reviendrai un petit peu par la suite dans mes diapositives suivantes. Et à côté de cela, il y a bien des EHPAD à qui on demande d'accueillir des personnes qui doivent être dans l'acceptation. Et donc le consentement des résidents est attendue de la part des équipes d'EHPAD qui doivent, c'est maintenant dans la loi, obtenir l'accord, le consentement de la personne qui arrive. Donc le directeur se doit de faire ça. Ce n'est pas encore fait partout. Hein. C'est à peu près un EHPAD sur deux qui recueille véritablement ce consentement qui est parfois difficile à obtenir parce que les personnes ne sont pas toujours en mesure de s'exprimer. Mais c'est quelque chose en tout cas qu'il faut rechercher, qui est un impératif. Et il faut respecter le choix de la personne, bien entendu, autant que possible en tout cas. Il y a également des enquêtes qui pointent la difficulté qu'ont les professionnels de santé qui sont souvent sollicités pour donner leur avis et le ressenti des familles lorsqu'un départ en institution se profile. Très souvent, les professionnels de santé, en tout cas c'est ce que montre cette enquête de sociologie qui a été réalisée, les professionnels, en écoutant les aidants, les familles le plus souvent, voit devant une personne qui n'en peut plus, qui n'est plus capable, qui ne peut plus faire la tâche qu'elle se sent en charge de faire. L'aidant, lui, a un vécu un petit peu différent. L'aidant, lui, il a le sentiment qu'il n'y a pas d'autre alternative, mais somme toute que personne ne pourra faire aussi bien que ce qu'il faisait. Et donc, derrière cette compréhension de la situation qui est un petit peu divergente, il existe souvent une incompréhension, et il n'est pas toujours facile de cheminer avec les familles, vers une orientation, vers une maison de retraite. Alors, qu'est-ce que nous apprennent les travaux de recherche sur les causes d'entrée en institution ? Alors, je vais vous montrer quelques travaux de recherche que l'on retrouve dans la littérature. C'est un sujet qui a été énormément travaillé pour essayer d'anticiper, justement, pour essayer de faire en sorte que cette entrée en institution, elle soit, disons, la moins douloureuse possible, préparée, faite de façon sereine, comme on le souhaite, lors d'un événement important de vie comme celui-ci. Alors on a beaucoup de travaux qui ont été réalisés, qui listent des données purement médicales et qui permettent de prédire l'entrée en institution. Ça c'est un travail qui est une méta-analyse, qui liste un très grand nombre d'études épidémiologiques et qui met en avant trois critères principaux que l'on retrouve d'une manière générale, pas forcément chez les patients qui souffrent de maladie d'Alzheimer, comme étant très fortement associé au risque d'entrée en institution. Le premier, il est sans surprise, c'est bien entendu la dépendance. Être dépendant augmente forcément le risque d'entrée en institution parce que la dépendance devient trop difficile à prendre en charge à domicile. C'est également le fait d'être dans une filière de soins et donc d'être rentré dans des institutions, d'être passé par des SSR, par des hôpitaux, qui est également fortement prédictif d'une entrée en institution. Et puis le troisième facteur, sans surprise, et qui nous amène à nous pencher sur cette question aujourd'hui, c'est bien entendu le déclin cognitif, l'altération cognitive qui apparaît dans les trois critères principaux prédictifs d'une entrée en institution. Alors ces études souvent abordent ce risque d'entrée en institution uniquement par le prisme médical, celui des caractéristiques du patient, de ses maladies, de sa dépendance. Or, un autre paramètre qui pèse énormément dans le risque d'entrer en institution, c'est bien entendu les caractéristiques de l'aidant, puisque c'est de lui que va dépendre le maintien à domicile. Et donc, dès que l'on fait rentrer dans ces études épidémiologiques les caractéristiques des aidants, il apparaît de façon très très claire que la solidité de l'aidant, sa capacité à se mobiliser, son état de santé vont conditionner énormément le maintien à domicile ou en d'autres termes le risque d'entrer en maison de retraite. Ce qui apparaît dans un certain nombre de travaux, c'est que lorsque l'aidant est seul face à l'adversité de la prise en charge, du soutien à un proche, lorsqu'il a un réseau autour de lui qui est faible, peu de soutien au sein même de sa famille ou dans son entourage, dans son quartier, auprès des autres acteurs, eh bien cet aidant qui est seul va être rapidement en difficulté et ça va rapidement conduire aussi à une entrée en institution. Donc ça, c'est aussi des données qui sont assez intéressantes parce que, vous allez le voir, lorsque l'on veut essayer de maintenir les personnes à domicile, ce qui est souvent le souhait de chacun, des familles, des patients et également des soignants, eh bien, il faut apporter un soutien aux aidants pour que le maintien à domicile reste possible et que l'aidant ne s'épuise pas pour faire face à toutes les difficultés auxquelles il va être confronté. Alors, lorsqu'on est sur des études beaucoup plus spécifiques portant véritablement sur des patients qui souffrent de maladies d'Alzheimer, on retrouve bien entendu les facteurs associés au risque d'entrer dans une maison de retraite, mais ce qui apparaît aussi, ce sont les caractéristiques même de la maladie d'Alzheimer et son expression notamment psychocomportementale, avec l'agitation, les éléments dépressifs aussi, l'apathie, je vous le montrais, qui sont fortement associés au risque d'entrer en institution. Les difficultés fonctionnelles, la difficulté à réaliser certaines tâches, et puis ces troubles du comportement qui pèsent très lourd, bien entendu, sur le fardeau des aidants et qui vont précipiter, lorsqu'ils ne sont pas pris en charge, l'entrée en institution.
Ils parlent souvent des troubles du sommeil, les aidants.
Bien sûr, ça en fait partie, oui, bien sûr, le sommeil et l'épuisement qu'ils génèrent chez des personnes âgées lorsqu'ils sont au quotidien avec une personne souffrant d'une maladie d'Alzheimer. Ce qui apparaît aussi, c'est que face à cette prise en charge, les hommes sont sans doute moins résilients, pour utiliser le même mot, moins en capacité de faire face à ce fardeau. Et le fait d'être une femme, alors bien entendu, les hommes ont plus de comorbidités, sont souvent plus fatigués, mais malgré tout, il apparaît dans les études que les hommes sont plus en difficulté pour assurer l'aide auprès de leurs épouses que ne peuvent l'être les épouses, qui souvent ont des capacités à prendre en charge leurs époux à domicile. Alors bien entendu, il y a d'autres considérations, des considérations ethniques, et puis à nouveau, le fait de vivre seul, bien entendu, et d'avoir simplement un aidant unique et seul et isolé, c'est également un élément qui doit inquiéter les soignants. Alors, on retrouve beaucoup d'études qui ont cherché à donner des outils aux cliniciens pour prédire cette entrée en institution. Il en existe qui ont élaboré des scores permettant aux cliniciens de dire d'ici 2 ans, d'ici 3 ans, ce patient qui est en face de moi risque d'entrer dans une maison de retraite avec telle probabilité. L'idée, c'est bien entendu non pas de précipiter l'entrée en maison de retraite, mais d'anticiper les difficultés qui peuvent se profiler. Et d'avoir une idée lorsque les familles nous interrogent sur ce risque d'entrer en institution et pouvoir les orienter au mieux lorsqu'il s'agit de faire des démarches, de réfléchir à une alternative au maintien à domicile. Donc loin de moi l'envie de précipiter bien entendu l'entrée en maison de retraite, mais je sais que si cette maison de retraite est finalement le lieu de vie qui se profile, il est préférable de l'organiser de façon sereine, de l'organiser avec la famille et de leur donner le maximum d'informations de sorte à ce qu'elles soient prêtes, qu'elles y réfléchissent ensemble et que les choses se passent de façon calme et réfléchie. Alors pour cela, il y a un certain nombre de critères. Donc on revient un petit peu sur les mêmes, mais il y a donc des éléments qui conditionnent beaucoup le maintien à domicile. Ce sont alors c'est une étude américaine en l'occurrence. Donc là, les Noirs américains et les gens d'origine hispanique maintiennent plus leurs proches à domicile que les Caucasiens. Le fait de vivre seul, la dépendance, le fait d'avoir une altération cognitive qui est déjà marquée, les troubles du comportement, bien entendu. Et puis du côté de l'aidant, c'est l'âge de l'aidant, donc sa robustesse d'une certaine façon, et puis le fardeau que génère la maladie. Alors si j'ai mis en vert là, les deux paramètres, c'est qu'il y a, certes un certain fatalisme à l'entrée en maison de retraite de la part des familles, des patients, mais il y a aussi des actions que l'on peut mener pour essayer d'éviter l'entrée en maison de retraite. Notamment, essayer d'améliorer la prise en charge des troubles du comportement. Et vous verrez que lorsque l'on donne aux aidants des outils pour faire face à ces difficultés, on arrive à améliorer la santé des aidants, mais également à retarder l'entrée en maison de retraite. Et essayer de limiter autant que possible le fardeau. Et c'est sur ces bases-là que se sont organisées toutes les filières Alzheimer dans nos villes, avec des alternatives au maintien à domicile, des hébergements temporaires, des équipes qui peuvent venir aider à domicile. Toujours avec l'idée que l'on va pouvoir limiter le fardeau de l'aidant, maintenir la personne à domicile dans de bonnes conditions sans que l'aidant s'épuise. Alors vous voyez quand même, lorsque l'on regarde ces différents items, lorsque l'on fait un score avec ces différents items, le risque d'entrer en maison de retraite pour un patient qui souffre d'une maladie d'Alzheimer à 3 ans, il est de 25%, 42%, 64%, 90%. Donc une personne qui a des troubles du comportement, qui va avoir une dépendance importante, une maladie un peu sévère, avec un aidant qui vit avec un retentissement important les difficultés comportementales, donc un fardeau qui est important. Le risque d'entrer dans la maison de retraite à 3 ans, il est de l'ordre de 90%. Donc ce sont des informations qui peuvent infléchir le discours du médecin lorsque la question de la maison de retraite va bien entendu se profiler. Ce qui est important également d'avoir à l'esprit pour nous cliniciens, c'est qu'une augmentation, même modeste, des troubles du comportement se solde par une augmentation très importante du risque d'entrer en maison de retraite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment une relation linéaire, parfois une augmentation très faible des troubles du comportement, par exemple, ce que vous listiez tout à l'heure, des troubles du sommeil, il suffit qu'il y ait des troubles du sommeil qui apparaissent, qui n'existaient pas auparavant, même s'ils sont modestes et qu'ils ont un retentissement important sur les dents, ça va être tout de suite une augmentation très importante du risque d'entrer en institution. Pour nous, cliniciens, le message, c'est qu'il n'y a pas, il ne faut surtout pas négliger ces petites augmentations parce qu'elles ont déjà un retentissement qui est important sur les dents. Et même si il semble modeste sur nos échelles d'évaluation psychocomportementale, il y a déjà un retentissement qui est significatif pour le vécu de l'aidant. Alors, lorsque l'on est médecin hospitalier, très souvent, on est confronté à la difficulté du retour à domicile ou de l'entrée en institution. Et c'est une question qui est presque omniprésente lorsque les patients rentrent dans nos services de rééducation fonctionnelle, dans les SSR, enfin, on appelle ça les SMR maintenant, sont les services où les patients, après un passage en court séjour aux urgences, sont accueillis dans des unités de moyen séjour, comme on disait autrefois, pour faire de la rééducation, pour se réautonomiser avec l'espoir de récupérer leur état antérieur et de retourner à domicile. On est dans une phase où l'on espère que les patients vont récupérer au maximum, mais on essaie autant que possible d'anticiper la sortie d'hospitalisation, de sorte à ce qu'elle soit la plus pertinente pour le patient et sa famille. Et là encore, il y a des éléments qui nous aident, notamment le fait que les patients soient seuls, l'absence de soutien à domicile dans une famille est souvent un élément qui complique énormément le retour à domicile pour nos patients qui souffrent de maladies d'Alzheimer, la sévérité de la maladie, le déclin fonctionnel, et puis là encore, le fardeau de l'aidant. Et vous voyez dans cette étude, ce que j'ai trouvé assez intéressant, c'est qu'ils avaient... ils ont étudié les troubles du comportement et les troubles du comportement n'apparaissaient pas dans le modèle final. En fait, ce n'est pas vraiment les troubles du comportement qui étaient prédictifs de l'entrée en institution, mais c'était plutôt le ressenti de l'aidant principal. En d'autres termes, il y a certains de nos patients qui ont des troubles du comportement assez importants, par exemple des troubles du sommeil, mais l'aidant a une capacité à faire face à cette situation-là et il ne le vit pas de façon très, très douloureuse et très difficile. Et somme toute, ce n'est pas un frein pour lui à ce qu'il y ait un retour à domicile. Et inversement, on a des patients qui ont des troubles du comportement qui sont relativement modestes, mais qui sont très difficilement appréhendés par l'aidant principal, par l'épouse ou par l'époux. Et là, le fardeau va bien entendu être très différent, indépendamment du trouble du comportement lui-même. Et donc, il faut une évaluation de l'aidant pour bien réfléchir à l'orientation à venir. Donc, il faut vraiment évaluer notre aidant. Alors, il y a d'autres paramètres qui sont intéressants à étudier lorsque l'on s'intéresse au risque d'entrer en institution. Ce sont les facteurs qui conditionnent le vécu de l'aidant. Dans quelle mesure ce fardeau est-il composé? Quels sont les paramètres qui font que la personne aidante va être en difficulté, va vivre cette détresse? Alors là, on a aussi un certain nombre d'éléments qui sont assez intéressants parce que par la suite, ça nous permet de décliner des interventions. En l'occurrence, dans cette étude, ce qu'il montre, c'est que le risque d'entrer en institution est très fortement associé au sentiment de fardeau de l'aidant. C'est une étude norvégienne où vous voyez, ce sont des patients qui souffrent de maladies d'Alzheimer et de maladies à Cordelevy. Vous voyez, ils sont suivis pendant 7 ans. Et puis là, vous avez le risque d'entrer en institution. Vous voyez que cela monte à presque 100% dès la quatrième année. Donc c'est une probabilité qui est tout de même très importante. Le fardeau de l'aidant est le paramètre principal qui conditionne l'entrée en institution. Et lorsque l'on va un petit peu dans le détail de ce fardeau, eh bien, ce sont des sentiments de frustration qui conditionnent ce fardeau. La limitation à une vie sociale. Donc les aidants sont souvent... déconnectés de leur vie relationnelle, leur vie sociale antérieure, ce qui est souvent douloureux, ne pas pouvoir partir en vacances, c'est ce qui apparaissait dans, dans cette enquête, et puis aussi le sentiment d'être dans l'incapacité de faire face à la situation. Et bien entendu, lorsque l'on envisage de réduire ce fardeau de l'aidant, il va falloir essayer de retisser du lien pour, social pour ces aidants, leur permettre d'avoir des fenêtres de repos en organisant des hébergements temporaires, de sorte à ce que ce fardeau soit, soit le moins lourd possible. Alors, je vous parlais tout à l'heure des troubles du comportement, on a parlé un petit peu de, des difficultés de sommeil, de l'agitation, de l'agressivité, bien sûr. Et puis, il y a parfois des symptômes qui, aux yeux des soignants professionnels, ne pèsent pas très lourd, comme l'apathie. L'apathie, ce n'est pas un problème dans les maisons de retraite. Les patients qui sont apathiques, somme toute, ne soucient pas les équipes soignantes, mais qui, pour les aidants, pour les familles, sont très souvent douloureusement vécues et qui sont des facteurs importants aussi d'entrée en institution. Donc le regard du professionnel de santé n'est pas celui forcément de l'aidant, et certains symptômes qui nous semblent, somme toute, avoir un retentissement modeste pour un aidant, sont en fait difficilement vécus par une épouse, par un époux, qui ne comprend pas pourquoi son mari, pourquoi son épouse est apathique, n'a envie de rien faire, et ça c'est aussi quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit, parce que on n'appréhende pas forcément ces troubles du comportement comme il le faudrait lorsque l'on voit ces patients en consultation. Alors, vous avez vu toutes ces études, à chaque fois l'entrée en maison de retraite, c'est un facteur de risque, c'est appréhendé d'un point de vue épidémiologique comme étant un échec, c'est comme les fractures, comme les décès, il y a l'entrée en maison de retraite comme si c'était vraiment un drame. Alors, est-ce que véritablement c'est un drame? Est-ce qu'il faut redouter systématiquement cette entrée en maison de retraite? Est-ce que cette inquiétude que l'on a d'une entrée en institution est légitime? Alors, la première question, c'est est-ce que l'on va impacter la qualité de vie des patients qui souffrent de maladie d'Alzheimer lorsqu'ils vont rentrer en institution? Qu'est-ce que ça va avoir comme impact? Est-ce que véritablement ils vont avoir une mauvaise qualité de vie? Alors, j'ai retrouvé cette étude qui est assez récente, il y a quelques années malgré tout. Je la trouve assez intéressante parce que ça permet d'avoir un discours aussi auprès des familles rassurant, notamment en regard de leur qualité de vie. Et donc là, ils se sont intéressés à l'évolution de la qualité de vie étudiée par une échelle standard, qu'on peut critiquer comme toujours dans les échelles de qualité de vie. Mais ce qui apparaît, qui m'a, je vous l'avoue, un petit peu surpris, c'est que dans près de la moitié des cas, il n'y a pas de retentissement sur la qualité de vie. La qualité de vie n'est pas moins bonne ni meilleure. Dans 44% des cas, la qualité de vie évaluée par cette échelle est la même une fois qu'ils sont rentrés dans la maison de retraite. Dans 25% des cas, il y a une dégradation de la qualité de vie, avec des modifications qui sont significatives, mais relativement modestes. Et puis, dans 30% des cas, il y a une amélioration de la qualité de vie des patients souffrant de maladie d'Alzheimer évaluée par cette échelle.
Et cette étude, elle a été faite quand par rapport au confinement? Parce qu'on a quand même tous en tête des moments terribles où l'absence de visite a été vécue très douloureusement, nous disent les familles par leurs proches, et notamment les proches touchés par la maladie.
Alors, la période de confinement est une période bien particulière, effectivement. Alors, le confinement a été douloureusement vécu par les familles, difficilement vécu aussi par les soignants.
Absolument.
Et par les patients eux-mêmes, avec des règles qui étaient quand même très contraignantes, effectivement, appliquées de façon assez variable d'un EHPAD à l'autre aussi. Il y avait une condition de... Il fallait sauver des vies, si vous voulez. C'est toujours une histoire de balance de bénéfices et de risques. Donc on a des travaux qui essaient d'évaluer quels ont été les retentissements de ces mesures appliquées dans les institutions. Il est probable que ça ait sauvé des vies.
Et que ça en ait aussi généré des syndromes de glissement, probablement.
Beaucoup de soignants sont convaincus qu'il y a eu des syndromes de glissement. On est en train de l'étudier là actuellement, donc on a des données qui vont bientôt, grâce au docteur, au professeur Sandrine Andrieux, nous allons avoir des résultats d'ici très peu de temps pour savoir quel était le retentissement de ces recommandations. Ce n'est pas si évident que ça, malgré tout. Et c'est bien entendu une question très importante parce qu'on sera confronté à nouveau à des situations comme celle-ci et on a besoin de savoir.
C'est d'ailleurs pas terminé. On sait qu'il y a des EHPAD qui réinterdisent les visites dès qu'il y a quelques cas dans leur établissement. Et je pense que ça, c'est une des questions. Il y a des personnes qui travaillent dans des EHPAD donc qui savent très bien que d'un EHPAD à l'autre, le climat, la façon d'organiser les choses peuvent changer complètement. Donc pour les familles qui sont ici et qui s'interrogent sur comment choisir une structure, est-ce qu'il y a des conseils? Est-ce qu'il y a des éléments auxquels être particulièrement attentif pour ne pas se tromper d'établissement et pour trouver la structure dans laquelle notre proche va faire partie des 30% qui s'y sentent bien?
Alors, vous voulez des recettes pour trouver la bonne EHPAD?
Alors, des recettes, je ne sais pas si ça existe, mais...
Alors, je vais vous dire un petit peu en conclusion comment j'appréhende les choses. Vous voulez que je fasse plus court, peut-être?
On va bientôt arriver, mais vous avez encore quelques minutes.
D'accord, je vais aborder ce sujet-là. Je vais vous dire un petit peu comment j'appréhende les choses lorsque je vois une famille qui s'interroge sur un choix de maison de retraite. Oui, bien sûr, puis je serai heureux de répondre à vos questions. Alors, lorsqu'il rentre en maison de retraite, il y a aussi l'inquiétude qu'il décède, tout simplement, parce qu'il y a aussi l'a priori que lorsqu'il rentre en maison de retraite, ils vont décéder rapidement. Je vous assure, c'est quelque chose que beaucoup de personnes ont à l'esprit. Lorsqu'ils rentrent en maison de retraite, ils se dégradent et ils vont décéder. J'ai pas trouvé de travaux qui démontrent que le fait de rentrer dans la maison de retraite fait qu'ils vont décéder plus vite qu'ils ne seraient décédés s'ils n'étaient pas rentrés dans l'institution. Bien au contraire, alors bien entendu, c'est une population rentrant en maison de retraite qui a un risque de décès qui est majeur, mais le fait de souffrir d'une maladie d'Alzheimer n'est pas associé à une surmortalité. Donc ce n'est pas ce que le donnent les données de la recherche. Donc là encore, il y a parfois des a priori qui ne sont pas confirmés par les données. Ce qui est vrai, c'est que très souvent, ces troubles du comportement sont gérés de façon différente lorsqu'ils rentrent en institution. Ils vont vivre dans une vie communautaire avec beaucoup d'autres personnes. Cette vie communautaire, elle impose aussi un certain nombre de contraintes, celle d'une vie en groupe. Et très souvent, ça se solde par une augmentation du recours aux psychotropes. Et ça, c'est très largement observé avec des recours aux psychotropes qui... Je ne veux pas dire qui flambe, mais qui augmente lorsque les personnes rentrent en institution, souvent au cours des premiers mois, et souvent avec des prescriptions qui ne sont pas reconsidérées à distance, si bien qu'ils ont des ordonnances qui s'alourdissent en termes de psychotropes, et vous connaissez certainement toutes les complications associées au recours à ces psychotropes. Je pense aux antidépresseurs, aux benzodiazépines, aux hypnotiques, aux neuroleptiques, à tous ces médicaments qui calment d'une certaine façon. Et qui sont très souvent prescrits dès que les troubles du comportement apparaissent. L'entrée en maison de retraite, ça a un coût également. Alors, c'est un coût considérable pour les familles. C'est un coût qui est important en France, notamment. Je vous ai mis cette diapositive pour que vous puissiez voir ce que coûte la maladie d'Alzheimer lorsqu'on est à domicile. Alors, c'est une étude réalisée au niveau européen dans 8 pays et ils ont regardé quel était le coût de la maladie d'Alzheimer lorsque l'on est à domicile et puis le coût de la maladie d'Alzheimer lorsque l'on est en institution. Vous voyez que la France est en vert sur la gauche, à droite c'est l'Estonie en rose. Donc vous voyez qu'il y a un gradient qui est tout de même très différent d'un endroit à l'autre. Ça correspond aux aides humaines que l'on peut mettre en place principalement. Vous voyez que lorsqu'on rentre en maison de retraite, le coût de la maladie augmente. Globalement, dans tous les pays, ce qu'ils observent, c'est que cela double. Rentrer en maison de retraite double le coût de la maladie d'Alzheimer de façon évidente. Vous voyez que la France n'est pas des plus mal lotis par rapport à d'autres pays européens. C'est tout de même assez intéressant parce que ça permet aussi de discuter des moyens que l'on doit mettre à domicile pour essayer de retarder l'entrée en maison de retraite, surtout si c'est le choix des familles et des patients, et des économies que l'on peut faire également lorsque l'on déploie des aides, des réseaux, du personnel qui vient aider pour que les personnes rentrent en maison de retraite. Alors, est-ce qu'on peut retarder l'entrée en maison de retraite? Il y a beaucoup de données qui se sont intéressées à cette question, bien entendu. Ça, c'est une étude qui est réalisée de mémoire aux États-Unis, où ils ont montré l'impact que pouvait avoir l'organisation de soins infirmiers ou de kinésithérapie comparativement à des sujets qui n'ont pas accès, pour des raisons d'assurance aux États-Unis, à ces soins. Et la réponse est sans appel. Lorsque les infirmières peuvent passer plusieurs fois par semaine, lorsqu'on arrive à déployer de la présence de kinésithérapeutes, on arrive à réduire de façon très significative, en tout cas retarder l'entrée en maison de retraite, que l'on ait une maladie d'Alzheimer ou qu'on n'ait pas de maladie d'Alzheimer d'ailleurs. Mais en tout cas, ce sont des actions qui vont avoir ce bénéfice. Il y a une étude qui a été réalisée à New York également, qui est assez intéressante, elle est souvent reprise, où ils ont organisé une intervention assez large qui porte sur les dents principales, avec une formation sur comment se comporter face à un trouble du comportement. Il y a des groupes de soutien qui se créent, il y a du conseil. Et puis, il y a également des stratégies qui sont mises en place pour que les aidants puissent faire face à la difficulté. Et donc là, on arrive à retarder, on arrive à améliorer déjà la prise en charge des patients, donner des clés aux soignants et, in fine, à retarder l'entrée en institution. Et là, on arrive, grâce à ce type d'action, à améliorer la santé des aidants, ce qui est capital pour que les patients eux-mêmes soient bien pris en charge, et à retarder l'entrée en institution. Alors, je vais juste terminer par cette diapositive, si vous voulez, hein, et vous dire comment j'essaie de
conseiller
d'aider les familles,
les familles
lorsque je les vois en consultation. Alors, j'essaie de lever les non-dits, parce que l'idée d'un départ en institution, lorsque l'on voit les patients souvent en compagnie de l'aidant principal, le thème de la maison de retraite est parfois dans l'esprit de chacun, il est rarement évoqué. Donc, je pense qu'il faut l'évoquer. Il ne faut pas l'évoquer à la première consultation, bien entendu, mais il ne faut pas non plus l'évoquer trop tardivement lorsque les choses se précipitent. Donc il faut donner la possibilité aussi aux patients d'être en mesure de discuter, de répondre, de donner son avis, de le dire. Et je crois que le médecin doit être une tierce personne dans cet échange qui est parfois jamais initié entre l'aidant, la fille, le fils et le patient. Donc là, c'est quelque chose qu'il faut mettre sur la table. Il faut... je crois évoquer aussi avec les dents, qui est souvent un enfant, ce sentiment assez étrange qu'ils ont de basculer, d'un enfant à un aidant, ce qui est quelque chose de très différent et qu'à un moment donné, ils vont devoir prendre la main. Et donc ça, il faut à un moment donné enfiler le manteau et être en capacité de faire des choix aussi pour leurs proches. Et ça, c'est souvent quelque chose de difficile. Il faut l'évoquer parce que sinon, ça reste, ils ont le sentiment que c'est quelque chose qui est...
Alors on a débordé déjà de notre temps, donc si on peut résumer les actions les plus importantes et le choix pour guider le parcours,
oui,
pour
sûr.
Trouver la
D'accord.
bonne
Je vais faire vite.
Structure.
Je termine. Alors, comprendre pourquoi les personnes n'ont pas envie d'aller en maison de retraite. Parfois c'est une histoire de sous, parfois c'est des fausses idées. Expliquer à l'aidant qu'on a besoin de lui en forme. Et donc qu'il ne faut pas qu'il soit jusqu'au boutiste et qu'il aille à l'extrême de sa fatigue, à l'extrême de ce qu'il peut faire, parce que lorsqu'il sera malade, le reste de la famille n'aura pas un seul patient, mais il y en aura deux. Il faut qu'il choisisse l'EHPAD de façon adaptée aux proches, en fonction de ses goûts. Et donc là, c'est comme lorsqu'on choisit une maison ou un appartement, ça dépend de chacun. Certains privilégient qu'il y ait un jardin, d'autres la relation humaine, d'autres qui puissent faire... Je crois qu'il y a autant d'EHPAD qu'il y a de goûts. Les EHPAD sont très différentes les unes des autres, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer.
Il faut y passer un petit peu de temps.
Et donc, il faut aller voir. Il faut déculpabiliser les familles aussi. Ce sentiment de culpabilité, il est omniprésent dès qu'on parle des maisons de retraite. Donc, il faut leur expliquer qu'il y a ce que l'on veut et il y a ce qui est possible, et qu'il y a parfois un détail entre les deux. Il faut anticiper les situations de catastrophe aussi. Donc, je dis tirer les leçons des situations antérieures. Très souvent, ce sont des patients qui sont passés par des services hospitaliers précédemment. Et donc, leur dire, voyez ce qui s'est passé les fois précédentes, il s'est dégradé. Donc, il faut que l'on puisse se projeter à un an et que vous puissiez visualiser, imaginer ce que sera la situation dans un an, de sorte à ce que vous fassiez les bons choix. Dédramatiser le monde des EHPAD, donc avec les fausses idées. Voilà, qui ont été portés, notamment pendant la période du Covid. Comprendre le coût également, savoir qu'est-ce que l'on doit payer. Donc parfois, les enfants sont inquiets de tout cela, mais n'ont jamais véritablement réfléchi au montage financier. Donc là aussi, il faut que les personnes qui vont payer, les patients parfois, mais souvent toute la famille, élaborent un plan pour savoir comment les choses vont pouvoir se faire. Éviter, dénouer les promesses aussi. Alors peut-être que je vais terminer par ça, il y a souvent des promesses. Alors ça, moi, je m'en aperçois, j'essaie de savoir s'il y a eu des promesses. Souvent, il y a des promesses. Des promesses, vous savez, le dimanche, dans le repas de famille, où à un moment donné, c'est « jamais tu ne me mettras dans une maison de retraite ». Non, maman, je te le promets. Voilà. ça a été dit.
Qui était vrai après, le jour J ne l'est plus forcément à un autre moment.
Et les
moment.
Gens se sentent liés par cette promesse. Et donc, il faut aussi savoir aborder ce sujet-là en disant parfois, on ne peut pas tenir certaines promesses et ça, ce n'est pas possible.
Et puis, peut-être ajouter un dernier item qui est intégrer les conseils de famille, parce que de l'intérieur de l'EHPAD, on peut aussi observer, regarder, comprendre, accompagner au mieux notre proche qui vit désormais et se dire toujours que ça doit être un lieu de vie et pas un lieu de non-vie. Et ça, c'est vraiment important, je crois.